Vous écoutez France Culture. Le livre, dans tout son éclat, dans tous ses états, pour la littérature, chaque jour de la semaine de 16h à 16h45 sur France Culture.
La NRF, 100 ans de littérature. Cinquième et dernier épisode aujourd'hui de notre série sur la nouvelle revue française, la NRF d'hier à aujourd'hui. Toute cette semaine, nous avons vu que la NRF, formidable aventure intellectuelle, a su traverser les épreuves les plus dures de l'histoire, exerçant depuis l'entre-deux-guerres jusque dans les années 50 un véritable magistère sur les lettres. Qui plus est, à une époque où les lettres occupaient le devant de la scène, la NRF occupe une place considérable dans toute l'histoire intellectuelle du XXe siècle. Mais l'intérêt d'une revue est précisément de s'inscrire dans un présent, puisque c'est aussi d'offrir à ses lecteurs la littérature dans son jaillissement, la littérature en train de se faire. Alors, qu'en est-il de la NRF du XXIe siècle ? Depuis les années 70 sous la direction de Marcel Arlan, puis de Georges Lambrix à partir de 1977, on parle du déclin de la revue, marqué par une baisse du nombre de tirages. Plus récemment, en 1999, la périodicité de la revue est passée de 1 mois à 3 mois. Faut-il y voir des signes de l'épuisement de l'esprit NRF ou seulement du repli vers un public spécialisé, correspondant à l'évolution de toutes les revues littéraires ? Que deviennent les revues dans un champ littéraire entièrement recomposé par les nouveaux médias, que sont la télévision, la radio, mais aussi Internet ? Pour nous répondre, j'ai le grand plaisir de recevoir deux écrivains et journalistes qui font vivre la critique littéraire d'aujourd'hui, Pierre Assouline et Joseph Massescaron. Pierre Assouline, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de nombreux romans et aussi de biographies, et vous êtes un observateur de choix de la vie littéraire, puisque vous êtes l'auteur du blog La République des livres, qui est le blog littéraire le plus lu en France. Joseph Massescaron, bonjour.
Bonjour.
Votre voix est familière aux auditeurs de France Culture, puisque vous animez chaque semaine Jeu d'épreuve, un rendez-vous de la critique littéraire sur France Culture. Et puis, vous êtes également le directeur de la rédaction du magazine littéraire, le titre phare que nous connaissons tous de la critique littéraire aujourd'hui. Alors, première question pour commencer, Joseph Massescaron. Que représente pour vous la NRF dans le paysage littéraire actuel ?
Aujourd'hui, c'est évidemment le mot qui vient tout de suite à l'esprit, c'est une institution, avec bien sûr tous les aspects positifs et les aspects, un peu ironiques qui rôdent autour du terme institution. Aujourd'hui, en fait, je pense qu'on peut aller très très vite au sujet. C'est que je ne suis pas sûr, bien sûr, je ne suis pas sûr que la NRF, évidemment, joue le rôle qu'elle jouait durant les temps que vous avez développés, qui ont donné, je crois, à chaque fois lieu à une émission.
Oui.
Pour aller très vite, le rôle que pouvait jouer la NRF de sourcier des lettres, qui permettait de découvrir parfois de nouveaux talents, de les suivre, de les accompagner, a peu ou prou disparu. Mais je ne crois pas que ce soit un phénomène qui soit lié seulement à la NRF. Je crois que c'est un problème qui est lié à toutes les revues littéraires. D'abord, c'est normal, puisque la plupart des revues littéraires se sont tournées vers la NRF. La NRF, c'est vraiment l'étalon-mesure de les revues. Même les revues qui se sont construites d'une manière indépendante, se sont construites contre la NRF, comme anti-NRF. Et puis, progressivement, on s'est aperçu qu'elle faisait beaucoup moins bien que la NRF. Pour aller très vite et pour être, disons, un peu taquin et un peu polémique, je dirais que la NRF aujourd'hui, c'est une très bonne revue pour vous, pour connaître l'état de la nouvelle littérature norvégienne. D'ailleurs, il y a eu un très bon numéro il y a 2 ans ou 3 ans, je parle sous le contrôle de Pierre Assouline, de la NRF, sur la nouvelle littérature norvégienne. Je ne plaisante pas, et avec, en effet, de très belles découvertes et avec de très belles ouvertures. Mais aujourd'hui, pour connaître un petit peu ce qui se fait, ce qui se prépare, et pas simplement d'un point de vue expérimental, je ne suis pas sûr, malheureusement, que la NRF donne. Je vais prendre deux exemples.
Oui.
Le premier exemple, à mon sens, c'est pour ce qui est des projets littéraires, plus exactement, qui se présentent comme des projets littéraires totaux. Je prends l'exemple du travail que peut faire Hubert Haddad chez Zulma ou que d'autres auteurs peuvent faire dans des maisons d'édition, comme par exemple chez Verdier ou chez Vertical. Vertical, justement, filière de Gallimard. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que chez Vertical, on voit souvent, en effet, cette tentative d'expérimentation qui a fui progressivement Gallimard, avec de très bons auteurs. Et donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça va faire peut-être plaisir à Pierre Assouline, c'est que il y a des auteurs que l'on découvre et que l'on ne découvre que par le net. Hein. Je vais prendre un exemple qui me semble pour moi typique. Irwin Welsh ne serait rien, qui publie au Diable Vauvert, qui appartient, alors maintenant évidemment on en a fait une fameuse école, on a fait une fameuse et fumeuse école, hein. On dit l'école de Glasgow pour mettre en avant, enfin on essaie de forcer de mettre en avant une certaine forme de réalisme social, et Dieu sait pourtant ces auteurs sont quand même assez différents, mais enfin bon. On se dit, il y a une école, donc évidemment, on frémit. Nous, journalistes, on frémit. Bon. On se dit, enfin, on va pouvoir étiqueter quelque chose, on va pouvoir mettre une étiquette sur l'emballage. Mais ce qui est sûr, c'est que sans le net, jamais Irwin Welsh n'aurait trouvé le succès que, à mon sens, il mérite. Quel que soit, d'ailleurs, honnêtement, ce n'est pas le genre de littérature vers laquelle je vais spontanément, mais bon, j'avoue qu'il méritait vraiment quelque chose, et ça, c'est vraiment le net. Donc, alors, vous avez donc d'un côté des petits éditeurs qui relayent le travail que font les revues, d'une manière peut-être plus spécialisée, et puis d'un autre côté, vous avez le net qui découvre et qui lance des talents. Donc, à ce moment-là, évidemment, l'espace d'une revue, que ce soit la NRF ou pas, est extrêmement réduit.
Pierre Assouline, sur ce sujet, sur le fait que les revues littéraires, finalement, avaient une fonction de découvreuse des nouveautés et que, finalement, petit à petit, elles se voient concurrencées par Internet. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon, la NRF demeure une institution très prestigieuse, mais inexistante. C'est une coquille vide depuis pas mal d'années déjà. Michel Brodeau, qui la dirige, fait un excellent travail, trimestriel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fidélisation du lectorat. Parce que tous les trimestres, ça ne va pas dire grand-chose. Je suis convaincu que la NRF n'existe aujourd'hui que par la volonté d'Antoine Gallimard d'être fidèle à la mémoire de son grand-père. Sinon, ça fait longtemps qu'il l'aurait totalement arrêté. Parce que, comme vous l'avez dit, ça ne se vend pas, mais à la limite, d'autres choses ne se vendent pas, mais servent à quelque chose. Là, on a le sentiment que ça ne sert à rien. Que ça n'existe que... Et ça, d'abord, ça n'existe que pour 1200 exemplaires, grand maximum, disons un millier, dont les trois quarts sont souscrits en abonnement par des bibliothèques américaines ou canadiennes ou autres. Il n'y a pas de public, ce n'est pas lu. Donc il n'y a pas d'enjeu. Et ce qui est frappant dans la NRF d'aujourd'hui, qui encore une fois sort des choses de qualité sur des littératures étrangères, italiennes ou autres, et parfois françaises, sur les auteurs qui vont publier des choses à la rentrée, par exemple, il y a toujours des... soit pendant l'année des extraits ou des work in progress. Ce qui est frappant, c'est qu'elle semble déconnectée de son époque, c'est-à-dire des enjeux de l'époque, des débats de l'époque. Aujourd'hui, il y a des polémiques littéraires qu'il ne faut pas traiter par le mépris ou la condescendance, parce que ces polémiques littéraires ont eu leur place dans la NRF de l'âge d'or, celle de Jean Paulhan et de Marcel Arlan. Même celle de Jacques Rivière aussi.
Dont on a parlé dans les émissions précédentes, oui.
Dont vous avez déjà parlé. Donc, les controverses littéraires, ça a son importance. Ce n'est pas que l'écume des choses. Or là, la NRF ne joue pas son rôle. Non seulement elle ne les relaye pas, non seulement elle ne les lance pas, mais elle ne les accompagne pas non plus. C'est-à-dire qu'elle n'en fait pas écho. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'irait que la NRF pour se tenir un petit peu au courant de ce qui se fait en littérature en France, disons, sur un an, ne saurait pas du tout ce qui se fait, en fait. Et donc, elle ne joue plus ce rôle-là. Donc, en clair, ce n'est plus du tout à la NRF que ça se passe. Pendant 30 ans, 40 ans, ça se passait dans la Nouvelle Revue Française.
Bien sûr.
J'ai la chance d'avoir la collection de la NRF des années 20 aux années 40. Je la consulte sans arrêt. Parce que c'est une mine d'or, non seulement de qualité littéraire, la qualité des contributeurs, mais une mine d'informations, de choses vues, il y a des critiques de théâtre, enfin, il y a des choses formidables. Donc ça se passait là, ça ne se passe plus là. Ça s'est déplacé vers la presse écrite, ensuite vers Apostrophe.
À la télévision, donc, avec Bernard Pivot ?
Oui. Aujourd'hui, pour moi, ça se passe, alors, ça se passe en partie dans certains journaux, et en même temps, ce n'est pas décisionnaire, mais ce sont des relais d'opinion. Je ne vais pas citer un magazine littéraire, qui est un excellent journal, parce que j'y collabore, imaginez-vous, donc. et vous en avez son plus digne représentant ici. Donc, on va oublier le magazine littéraire. Mais pour moi, pour l'essentiel, ça se passe à la radio. Et je ne dis pas ça parce que je suis à l'antenne, précisément, à la radio. Et ça se passera de plus en plus, si ce n'est déjà fait, sur la toile, sur Internet. Parce que c'est là que ça se passe pour l'information en général. Et donc l'information culturelle passe aussi par là.
Parce que pour aller dans le sens, juste une seconde, de Pierre Assouline, je crois qu'on enjambe quelque chose. C'est-à-dire qu'on passe directement, on va passer directement de la radio au net. Enfin, en tout cas, c'est une conviction que j'ai. C'est-à-dire qu'on va sauter la télévision. La télévision, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé, quelle que soit la qualité des personnes qui vont présenter des émissions à la télévision, quel que soit le talent des auteurs qui viendront défendre leur livre, la télévision impose d'être dans ce que j'appelle, ce que l'on appelle vulgairement l'économie médiatique. Ce qui veut dire concrètement, c'est qu'une personne peut très bien poser les postulats les plus honorables qui soient, les plus rigoureux qui soient, tôt ou tard, on lui dira « Et Coco, c'est bien gentil, mais il faudrait un peu plus de people dans ton émission. » Et là, encore une fois, là, je présente ça de la manière la plus, ouatée pour ne pas heurter les oreilles des auditeurs de France Culture, parce que ça se passe généralement d'une manière beaucoup plus triviale.
Est-ce que c'est ça qui explique le peu de place réservée aux livres à la télévision, Joseph Massescaron ?
Moi, je pense que oui, parce que ce que l'on veut, en fait, c'est du débat. Comme disait Boris Vian, il faut que ça saigne. Dans la chanson. C'est ça ce que l'on veut, c'est ce que j'appelle l'économie médiatique.
Pierre Assouline.
J'en viens en revue, parce que c'est quand même le thème de votre émission. Les revues, je ne suis pas contre, hein, et j'en lis.
Alors, quelle revue vous lisez ?
La NRF, je la lis parce que je la reçois. Sincèrement, si je ne la recevais pas, je ne l'achèterais pas.
Déjà, c'est difficile de se la procurer, puisque les lieux de diffusion ont diminué. Avant, on la trouvait partout, maintenant, c'est presque un livre.
Voilà. Voilà. Pour ce qui est des autres, je lis le débat. Qui est chez Gallimard, Commentaires, qui est une revue fort bien faite.
Qui sont trimestrielles également, toutes les
oui,
deux.
Oui, mais ça ne me gêne pas, parce que, je veux dire, il y a une densité là-dedans qui fait qu'il faut bien trois mois pour le lire. Hein. La revue des Deux Mondes, qui est très bien faite. La revue littéraire de Léo Cher, qui a voulu un petit peu prendre la suite de la NRF, mais ça va prendre du temps. Mais il y a des choses dedans, il y a des débats, il y a des polémiques, il y a des nouveautés.
On lui a reproché d'imiter la NRF,
mais
justement.
Il limite, oui.
Alors, est-ce qu'ils occupent la place, finalement ? Est-ce que la revue littéraire occupe la place qu'a occupée la NRF ?
Il a fallu 40 ans pour que la NRF soit la NRF. Ça ne va pas se faire en 4
ans. Depuis 2004, hein. Oui.
Voilà, c'est un peu juste. Mais la revue littéraire de Léo Cher, c'est leur modèle. Donc, je crois à ces revues. Elles existent encore. Leur économie est difficile, la revue Esprit. Et d'autres dont je n'ai pas les titres en tête, mais ça va me revenir. De notre côté, je pense que ces revues, leur chance aujourd'hui, si elles veulent survivre, c'est qu'elles doivent avoir une déclinaison immédiate sur le net avec un site qui porte le nom de la revue et qui donne tout de suite, très vite, les archives, les articles du mois précédent en ligne. Parce que qu'est-ce qu'on voit en face ? Il existe déjà des revues qui ne disent pas leur nom, mais qui sont pour moi l'équivalent de ces revues-là, prestigieuses et historiques, que je viens de citer, qui est leur équivalent sur le net. Je pense par exemple à la vie des idées.fr, dirigée par Pierre Rosanvallon. Bien, c'est un remarquable chaudron d'idées. Et qu'est-ce que c'est qu'une revue ? C'est ça. C'est ce que Léon-Paul Fargue a appelé le laboratoire des idées de demain. Eh bien, on est en plein là-dedans. La vie des idées.fr, qui a des centaines de collaborateurs, qui sont pour la plupart des universitaires. C'est d'une remarquable tenue intellectuelle. Il y a un article par jour et ça vous apporte, ça vous ouvre un champ intellectuel que vous n'avez nulle part ailleurs. Et personne ne peut concurrencer ça, parce que c'est un véritable réseau. C'est un réseau d'amitié, de collaborateurs, de confrères, de collègues, etc. Pour moi, disons sur le plan des idées, hein, pas sur le plan de la littérature, où j'ai pas encore vu ça, La suite de la NRF, c'est lavidesidées.com. Mais je rêve, personnellement, mais je rêve et puis j'en rêverai plus parce que Gallimard ne le fera pas. Moi, je rêve de l'ANRF.com.
Oui.
L'ANRF.com, c'est-à-dire l'ANRF d'aujourd'hui, avec la même maquette et tout, mais exclusivement en ligne, et dont les articles seraient modifiés tous les jours.
Alors c'est ça que permet justement le net par rapport à la revue papier, c'est un contenu modifiable.
Ils auraient pu le faire.
Et plus d'interactions avec les internautes.
C'est ça qui aurait sauvé l'ANRF. Ce qui l'aurait sauvé, c'est de faire l'ANRF.com.
Alors le magazine littéraire.com existe, Joseph Massescaron, et il n'est pas...
C'est un magazine, ce n'est pas une revue.
Oui, c'est un magazine.
Est-ce que c'est un magazine, le magazine littéraire, est-ce que ce n'est pas une revue littéraire?
Non.
Alors expliquez-moi en quoi c'est.
Alors pas du tout.
Alors
justement, c'est vraiment c'est le vrai problème auquel d'ailleurs je me suis d'ailleurs trouvé confronté lorsque je suis arrivé il y a pas très longtemps pour m'occuper du magazine littéraire, c'est que des collaborateurs même du magazine littéraire disaient la revue, nos autres revues, c'est absolument pas une revue. C'est même d'ailleurs évidemment, de la part de ces personnes, c'était quelque chose de tout à fait honorable, bien sûr, hein, parce qu'ils avaient une certaine révérence pour les revues, mais le magazine littéraire n'est pas du tout une revue. C'est, le travail que nous faisons est un travail journalistique, et ça doit être vraiment un travail journalistique. Mais déjà, c'est tellement énorme si on arrivait à faire à peu près convenablement le travail journalistique que l'on fait. Je veux dire qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail avant qu'on y parvienne. Donc non, c'est le problème, c'est on est dans une confusion totale. Hein. On confond la critique littéraire telle qu'elle s'exprime par le biais d'une démarche journalistique. On confond avec la critique universitaire, ce qui n'est pas la même chose.
Oui, mais il y a des liens entre les deux.
Bien sûr qu'il y a des liens, puisque l'objet, évidemment, est toujours le même, c'est la littérature. Mais le problème de la confusion, c'est comme... C'est en économie, la fausse monnaie chasse la vraie, la fausse critique chasse la vraie. Donc c'est ça aussi, si on permet justement une grande porosité entre les gens, moi ça me gêne profondément.
Alors par exemple, Thibaudet, à la grande époque de la NRF, était à la fois un universitaire et un critique littéraire de la NRF. Il a justement parlé des trois critiques en montrant que c'était seulement des types de discours différents sur un même objet, mais les différentes critiques peuvent communiquer.
Que les différentes critiques puissent communiquer, oui, bien sûr, elles peuvent communiquer, mais je ne crois pas qu'on puisse passer de l'une à l'autre ou d'être dans la confusion et de dire, voilà, le magazine littéraire est une revue. Non, je veux dire, enfin, vous avez trouvé l'expression un peu bizarre, mais nous n'avons pas le droit de nous présenter comme une revue. Enfin, moi, je trouverais ça, mais enfin, du point de vue de la déontologie, je trouverais ça tout à fait, mais amoral.
Ce n'est pas la même temporalité qu'une revue.
C'est rien à voir.
Une revue est dans la durée, elle prend son temps, elle peut vous parler d'un livre 6 mois après, et pourquoi pas. C'est autre chose. Alors qu'un magazine comme le magazine littéraire, qui est donc fait en grande partie par des journalistes, il travaille dans l'actualité, il traite des livres qui viennent de sortir, il ne va pas en parler 6 mois après, et puis il anticipe sur les débats qui vont arriver dans 1 ou 2 mois. Ils lancent des débats. Donc l'esprit n'est pas du tout le même, il est dans l'urgence.
Alors la NRF a eu dans le passé une fonction de découvreuse des écrivains. Par exemple, on voit Jean-Paul Sartre présentant le manuscrit de La Nausée, devant l'adapter aux exigences de la revue, etc. Et aujourd'hui, est-ce que c'est un passage obligé pour un écrivain qui veut se lancer en littérature, la revue, comme dans le passé? Pierre Assouline.
Oui, moins qu'avant. Beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire, du temps de Gaston Gallimard, il est évident qu'un jeune écrivain ne rêvait que d'une chose, c'est d'avoir, d'avoir quelques pages de son prochain manuscrit publié dans la NRF. Enfin, pour lui, c'était déjà la consécration, même s'il n'y avait pas de suite, parce que ça le faisait connaître, tout de suite. Donc c'était pas apostrophe, mais enfin, c'était une rampe de lancement extraordinaire. Et puis il y avait d'autres revues, hein, comme la revue Commerce de Paul Valéry, et d'autres encore. À ce sujet, une anecdote qui est peut-être dans votre série, mais je ne suis pas sûr. Entre les deux guerres, tout un groupe de gens autour de Paul Valéry ont voulu lancer une revue, une autre. Ils sont réunis, Jean-Paul Fargue dormait sur un canapé, et tous étaient en train de gueuler, de s'engueuler, comment faire cette revue, etc. etc. Et lui somnolait sur son canapé. Ils cherchaient un titre, tous. Et alors, il a émergé de son sommeil. Et il leur a dit, bon, ça suffit maintenant, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors ils ont dit, ben écoute, c'est simple, ce qu'on veut faire, c'est le contraire de la Nouvelle Revue Française. Alors il leur a dit, ben voilà le titre, l'ancienne revue allemande. Bon, eh bien, c'est une anecdote, hein, c'est une parenthèse, j'avais envie de vous le raconter. Mais ce que je veux dire, c'est que Aujourd'hui, l'instance de consécration, malheureusement, ce n'est plus la revue. Les choses ont changé, les choses ont évolué. En revanche, ce qui est toujours vrai, c'est qu'un bon éditeur, un éditeur bien né, selon moi, il commence son travail le matin, d'abord par écrire des lettres à ses auteurs, et ensuite par lire les journaux, et enfin par lire le maximum de revues. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il va trouver des auteurs. Vous n'imaginez pas le nombre d'éditeurs avisés qui, en lisant un article de 20 pages dans une revue, ont décroché leur téléphone pour appeler l'auteur pour lui dire « Et si tu m'en faisais un livre ?» Un exemple parmi 1000 autres, Nicolas Bavrez, le déclin de la France.
La France qui tombe.
La France qui tombe. Au départ, c'est un article, je crois, dans Commentaire.
C'est dans Commentaire, oui.
Et Anthony Rollet, éditeur de chez Perrin, chez Plomb Perrin, avait téléphoné pour lui dire ouais, « Voilà, il faut prolonger ça ». C'est tout le temps comme ça, mais même en littérature. Et on en revient à la NRF. Dans la NRF, il y a une dizaine d'années, Philippe Delerme, à la demande de Jacques... prédécesseur de Michel Brodeau, pardon.
De Bertrand Visage ?
Non, avant encore.
Jacques Reda
avait publié un court texte de Philippe Delerme dans la NRF qui s'appelait « Petite gorgée de bière », etc. Il en avait fait deux. Et quand il en avait fait deux, eh bien, Reda a dit à Delerme « Si vous en faites encore trois ou quatre, ça peut faire un petit livre. Ça pourrait être pas mal ». Ça a fait 500 000 exemplaires, ce petit livre.
Avec des plaisirs minuscules, on a fait un livre magnifique.
Exactement. Donc c'est pour dire que les revues jouent encore ce rôle, dans la mesure où il y a encore des éditeurs pour les lire, avec cet œil particulier qui consiste à déceler à la fois un futur livre et probablement souvent un futur écrivain, ou un auteur en tout cas.
Alors on a un peu serré les différentes fonctions de la revue littéraire. On a vu à la fois la fonction de légitimation, de consécration, et puis de vivier de nouveauté. Est-ce que l'inconvénient d'Internet n'est pas de ne pas permettre une sélection, Joseph Massescaron, que permettaient justement les revues avant,
oui,
Internet?
Bien sûr, de toute façon, c'est un procès général que l'on fait à Internet.
Hein, oui.
C'est de même que Internet provoquerait une forme de relativisme culturel. Évidemment, ça provoquerait une forme de relativisme des idées, de la littérature, du style.
Voilà,
Non, mais enfin, du cliché, il n'y a pas simplement du cliché. C'est-à-dire que c'est vrai que l'on voit beaucoup de personnes se présentant comme des auteurs et faisant un buzz tout à fait remarquable pour un livre qui finalement est sans intérêt. Ça, c'est bien sûr qu'on a, mais moi, sur Internet, moi, je suis plutôt optimiste. Je crois que avec le temps, on sait où aller voir. On sait où aller voir. Bon, évidemment, vous avez parlé du blog fameux de Pierre Assouline, mais
on va en reparler.
Mais on sait maintenant quand même où est-ce qu'il faut. Enfin, les internautes savent où est-ce qu'il faut aller. Et finalement, moi, je trouve que progressivement, il y a de moins en moins de. Enfin, les sites se réduisent. Les sites qui reviennent, le nom des sites qui reviennent en permanence a plutôt tendance à se réduire par rapport au début. Enfin, c'est vraiment un phénomène général. Je le vois bien. Sur la toile, parce que là c'est vraiment la toile, il y a vraiment des réseaux qui se répondent et tout, et maintenant de plus en plus il y a quelques indications, quelques blocs qui sont regardés de près, et puis les autres, bon, c'est un peu de l'émulsion médiatique, mais pour Internet.
Alors Pierre Assouline, tous les jours vous écrivez dans votre blog, qui est le plus lu des blogs littéraires, alors vous êtes peut-être le mieux placé pour en parler.
Vous parlez de sélection, bon, il faut dire les choses comme elles sont, Internet c'est une poubelle. Il y a n'importe quoi dedans, mais dans les poubelles il y a des bonnes choses aussi, parfois. Donc il faut aller voir de plus près. Moi je suis aussi optimiste que Joseph, la sélection se fait naturellement. On parle tout le temps du nombre ahurissant de blogs qui se créent, mais on ne parle jamais du nombre de blogs qui meurent. Qui sont beaucoup plus nombreux.
Beaucoup plus nombreux.
Pourquoi ils meurent ?
Parce
qu'ils s'en occupent pas.
Oui. C'est paradoxal.
Parce que personne ne s'en occupe. Créer un blog, c'est enfantin. Ça, n'importe qui peut le faire. L'entretenir, c'est plus compliqué. La plupart des blogs qui sont lancés, au bout d'une semaine, ils sont abandonnés. Est-ce que chaque fois on parle des blogs culturels ou littéraires, mais ça se compte sur les doigts d'une seule main. D'une seule main. Il y a quand même quelque chose de très objectif, si je puis dire. C'est le classement Wikio.
Oui. Hein ?
On le connaît, ce classement. Regardez dans les 100 premiers.
Vous êtes 22e, je crois.
Merci.
Dans les
il y en a combien sur, disons, les livres, la littérature? Deux. Parmi les 100 premiers, deux. Je parle de la blogosphère de langue française, c'est rien. Il y a François Bon et moi. Ce n'est pas assez. Il devrait y en avoir beaucoup plus. Or, les blogs, pour la plupart, c'est quoi? Technologie, cuisine, politique. C'est essentiellement ça. Donc, la culture, les écrivains... Pourquoi il y en a qui ont des blogs. Houellebecq a un blog, Castillo aussi. Moi, je les ai mis dans mes, sur mon blog, je les ai mis dans la colonne de droite pour qu'on y aille. Mais de temps en temps, je vais les voir. La dernière fois que Houellebecq a fait un billet sur son blog, c'était en 2006. Michel et Castillo, c'est tous les trois mois. Mais lui-même, il le dit, hein, il n'a pas envie d'écrire plus. Et quelques autres comme ça. Donc, il ne faut pas rêver... D'une part, il n'y en a pas tant que ça, et d'autre part, la sélection se fait d'elle-même. Pourquoi? Parce que, d'abord, il faut savoir que ces blogs, s'ils existent, il faut les trouver, ce qui n'est pas évident. Ensuite, très vite, les gens se rendent compte que la plupart des blogs faits par des particuliers sur des livres, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit « j'ai lu ce livre, j'aime ou j'aime pas ». Ça ne va pas plus loin. Donc, il y a une lassitude qui se fait très très vite. Et il n'y a pas d'audience parce qu'il n'y a pas d'enjeu.
Donc c'est une illusion de penser que les blogueurs particuliers, tous autant qu'ils sont, concurrencent les journalistes professionnels, puisque vous êtes le contre-exemple par excellence. Vous êtes journaliste et c'est votre...
Je suis journaliste et si les gens viennent, c'est parce qu'ils savent que j'engage ma signature. C'est signé de mon nom, ça aussi c'est important. Vous avez des blogs qui sont anonymes, ou plus ou moins anonymes, on ne sait pas qui est derrière. Là, vous engagez un nom, si vous écrivez des livres par ailleurs... etc. Donc il y a quand même une crédibilité à avoir. Si je lance une fausse information, je peux vous dire que le lendemain, j'ai beaucoup de problèmes. J'ai les mêmes problèmes que si je la lance dans le magazine littéraire de Joseph Mazescaron, c'est-à-dire des problèmes de fiabilité, de source, de crédibilité.
Oui.
Donc je vérifie tout, bien entendu. Et quand je lance quelque chose, c'est que je suis sûr. Mais pour le reste, c'est de la critique littéraire traditionnelle.
Il n'y a pas plus Parce que moi, pour appartenir à la génération antérieure, il n'y a pas plus aujourd'hui de blogs littéraires qu'il n'y avait autrefois de fanzines. Mais on s'en rend pas compte parce qu'on a oublié. Vous savez pas ce que c'est qu'un fanzine,
non,
peut-être?
Est-ce que vous pouvez expliquer?
Les fanzines, c'était tout simplement les journaux, c'était des feuilles de chou, quoi, souvent qui étaient renéotées et qui étaient faits dans les lycées, dans des collèges ou dans des facs. Voilà. Et souvent par lycée, dans un lycée, il y en avait 2, 3, 4, 5. Et la même chose enfin, moi, j'ai connu ça.
Vous en avez vous-même créé?
Oui, j'en ai créé moi aussi, voilà, même plusieurs fois dans... en tant que lycéen, cagneux, et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et il y avait aussi une petite vie, et puis on apprenait à écrire progressivement, on apprenait à pouvoir s'exprimer, sans vouloir d'ailleurs être tous journalistes ou critiques littéraires, bien sûr. Et ça, c'est finalement exactement, moi j'ai vraiment l'impression, mon fils, il fait exactement la même chose, au lieu de créer un fanzine, ce qu'il aurait dû faire, il a 18 ans, au lieu de créer un fanzine, il a créé un blog culturel, littéraire, politique. Voilà.
C'est
moi,
moins
je vais
cher,
pas dire
hein.
le nom. Voilà. Et en plus, je suis très content parce que c'est moins cher.
Voilà. Ça ne coûte rien, n'importe qui peut le faire. C'est très facile à faire.
Donc ça, c'est pour les blogs. Mais alors, les sites internet, vous parliez de la NRF.com, bon, qui n'existe pas. N'allez pas voir la NRF.com, mais que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que ce serait un prolongement de la revue papier ou est-ce que Internet, en tant que nouveau média, permet d'autres contenus, permet un autre rapport au texte?
Oui, bien sûr. Ça aurait été à la fois un prolongement sous une étiquette prestigieuse, parce que le label NRF est l'un des plus prestigieux de la culture française. Donc sous ce label, qui est un label de crédibilité, d'abord il y aurait eu les archives de la NRF, qui sont énormes. Et là, c'est passionnant, comme vous imaginez. C'est pas à vous, je vais dire ça. Et un siècle d'articles, pratiquement, puisque l'anniversaire est pour l'année prochaine.
Je ne prétends pas les avoir tous consultés, mais
non, mais c'est considérable. Et puis d'autre part... faire une NRF, mais comment dire, imaginez la NRF telle que vous la voyez aujourd'hui en librairie, mais renouvelée en permanence. C'est-à-dire la partie théâtre, eh bien, au lieu qu'elle vous parle comme aujourd'hui de pièces vues il y a 3 mois, elle vous parlerait de pièces vues hier soir.
Donc une réactivité plus importante.
Mais je veux dire, si ça existait, moi j'y ai pensé longuement, etc. Malheureusement, ça ne se fait pas. Mais si ce que je décris là existait, ce serait une révolution sur le plan de l'information culturelle en France. Une révolution. Avec des moyens, il faut un peu de moyens au départ, parce que là, c'est un site. Dans mon blog, j'étais tout seul, je suis toujours tout seul. Ça n'engage que mon temps et mon énergie. Mais là, c'est un site, il faut des gens, il faut Mais si ce site existait, ce serait une révolution. Parce que, je veux dire, on parlerait de tout. On parlerait de concerts, d'opéras, comme ils le font déjà, de théâtre, et bien sûr de livres et de polémiques, mais en temps réel. En temps réel.
Vous êtes sans doute en train de donner des bonnes idées à l'ANRF. Alors, Joseph Massescaron, on parlait tout à l'heure de la production sur Internet. Alors, chaque année, on se plaint, à l'approche de la rentrée littéraire, du nombre de romans. Cette année, on annonce près de 700 romans. Parmi les problèmes, pour savoir comment parler des livres aujourd'hui, il me semble qu'un des problèmes, c'est qu'il y a tellement de livres qu'on n'est pas sûr de choisir les bons et que peut-être on passe à côté des plus importants.
Je vais peut-être vous surprendre, mais je ne suis pas sûr que l'on passe à côté des plus importants. Là aussi, il faut être honnête, parce que je sais très bien qu'il y a un discours un peu démagogique qui consiste à dire « Oui, moi-même, je dois faire acte de repentance, j'ai oublié tel livre, c'est un peu… » Bon. Je ne suis pas sûr, c'est-à-dire que ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'il faut faire attention au panurgisme littéraire qui va nous conduire presque naturellement, d'une manière à imposer. Mais ça, c'est encore une fois, je reviens au principe d'économie médiatique qui existe aussi dans les journaux, il va y avoir une pression qui va nous dire, ben voilà, par exemple, Coco, tu te débrouilles pour faire d'abord le Christine Angot. C'est-à-dire qu'avant même de pouvoir traiter, je prends Catherine Lépron, par exemple, il faut absolument que tu me fasses Christine Angot. C'est ça. Enfin, moi, c'est déjà ce que j'entends. Non pas au magazine littéraire, puisque là, heureusement, là, on peut faire ce qu'on veut. Heureusement, on peut suivre son goût, enfin, parce que pour donner le goût, justement, de lire. Mais voilà, puisque je travaille aussi dans un autre journal hebdomadaire, et c'est déjà ce que j'entends. Voilà. Donc, mais je ne crois pas, en revanche, je ne crois pas qu'on va passer à côté. C'est-à-dire que je pense que d'une manière ou d'une autre, on va peut-être que de bons livres ne seront pas traités immédiatement, et c'est ça d'ailleurs le problème, parce qu'un livre, il faut le rappeler, reste peu en rayon. Je sais pas, Pierre Soune, c'est quoi, 3 mois en moyenne à peu près, hein? Ou je suis peut-être optimiste d'ailleurs quand je dis 3 mois.
Dans l'éventualité extraordinaire où le livre sort de la caisse.
Oui, voilà. Oui, ils sont renvoyés.
Ce qui n'est pas acquis. La majorité des livres, une grande partie des livres ne sont même pas sortis de la caisse pour être exposés. Hein.
Voilà.
Parce que les libraires n'ont pas des murs extensibles, ce sont des livres envoyés d'office.
Voilà, et comme ils ne veulent pas alimenter systématiquement la cavalerie, hop, voilà, en effet, la caisse repart. Mais...
Le phénomène grave, important, c'est pas... qu'on passerait à côté d'un grand livre. Je ne crois pas au livre maudit, je ne crois pas à l'écrivain maudit. Il y a tellement de sources d'informations aujourd'hui qu'un livre important, même si on en parle 2 mois après parce qu'un autre critique l'a vu avant, ben ce n'est pas grave, mais on en parle quand même et d'autres en ont parlé. Donc il y a tellement de sources d'informations possibles et imaginables, déjà avec l'Internet, mais même avec les moyens traditionnels, que... Je n'imagine pas un livre important passer à travers les mailles du filet. Ce qui est plus grave, c'est que la majorité des livres qui vont paraître à la rentrée, ça on le sait déjà, n'auront rien. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une ligne, mais pas une ligne imprimée à leur sujet, pas un mot prononcé à la radio, et pas un mot à la télévision, et peut-être rien sur l'Internet. C'est-à-dire que pour l'auteur, son livre sera nul et non avenu.
Il n'aura pas existé. Et c'était ça, le sens de ma question également.
Mais ça, non seulement ça va toucher des tas d'auteurs inconnus, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça touche aussi des gens qui sont parfois des journalistes tout à fait installés, qui dirigent des rubriques, qui ont des relais, qui connaissent du monde, dont on peut imaginer qu'eux, qui sont publiés par de très bons éditeurs sur la place de Paris, donc qui ont toutes les cartes en main. Eh bien, j'en connais plusieurs, pour parler de cas récents, parce qu'ils m'en ont parlé eux-mêmes, très désappointés et très surpris, qui n'ont rien eu. Rien du tout.
Aucune critique.
Rien.
C'est pire que de se faire descendre par la critique, finalement.
Bien sûr. Ouais. L'indifférence, c'est pire que la haine. Si encore ils se faisaient descendre, ils existeraient. Mais là, rien. C'est-à-dire que c'est comme s'ils n'avaient rien fait. Et j'en connais qui ne veulent plus écrire ou qui sont stérilisés pour assez longtemps à la suite de ça.
Donc vous pensez que les écrivains importants, de toute façon, ils existeront, mais que ça n'empêche pas que certains écrivains risquent d'être passé sous silence.
Oui, Mais j'ai du mal à imaginer qu'un livre important n'ait absolument rien. Enfin, quand on dit important, encore, il faut s'entendre aussi sur le mot. Hein. Tout ça est très subjectif et on vous... Je sais pas, mais même si on cite les bienveillantes, moi j'en connais, enfin sur mon blog, où ils se déchaînent quotidiennement, qui vous diront que c'est un livre qui n'a aucun intérêt, que c'était même pas la peine de le publier. Donc, livre important, ça ne veut pas dire grand-chose. Cela étant, c'est assez rare... Hein, j'imagine difficilement que tout le monde passe à côté de quelque chose qu'il fallait, qui compte.
Oui, parce que les livres dont parlait Pierre Assouline, et moi je vois bien, parce que j'ai bien l'esprit, on ne va pas donner de nom, mais j'ai bien l'esprit en effet de livres de personnes qui sont déjà installées et qui finalement publient un livre, qui vont publier un livre qui est un livre d'une facture honorable. Mais franchement, ne prenez pas le mal cet adjectif. Hein. C'est pas du tout méprisant de ma part. Mais voilà un livre tout à fait honorable et qui, bien sûr, ne vont trouver aucun écho. Oui, c'est
mais assez. Rien, absolument rien.
Mais rien du tout. Rien du tout. Alors que un premier roman qui sera d'une facture moins, comment dire, avec. Moins honorable, qui aura moins de style, dont le projet littéraire ne sera pas tout à fait abouti, mais parce que c'est un premier roman, va évidemment, parce qu'on veut donner une chance, parce qu'il y a une sorte de... Un peu moins aujourd'hui d'ailleurs, mais enfin, il y a eu en tout cas à une époque un label premier roman, va évidemment un peu accueillir, provoquer l'attention de la critique. Mais là, on parle de cette zone, d'une zone qui est un peu une zone grise, qui en effet risque de ne trouver aucun écho. Mais l'immense, enfin, moi je pense, encore une fois, et Pierre Assouline a raison, de livres, il n'y a pas de livres aujourd'hui, il n'y a pas de livres de livre maudits.
Et ça, ce n'est pas seulement pour dire que la critique est omnipuissante.
Non.
Non, parce que justement. Maintenant sur Internet, vous avez de simples lecteurs qui font la critique eux-mêmes, hein, comme s'ils étaient des critiques. Et donc, c'est-à-dire tout le monde. Et souvent, ils vous envoient des messages pour dire « Attention, il faut lire ça. Voilà un bon livre. » Et ils font une critique souvent
remarquable. Ça vous aide finalement de...
Bien sûr, ça nous aide. Bien sûr. Tous, on est redevables.
Bien sûr, on a aussi des lettres de lecteurs qui nous disent, qui nous mettent... ou même, par exemple, vous parliez de l'émission « Jeu d'épreuve ». Enfin, très souvent, il y a des mails d'auditeurs qui nous disent « Ça, ce serait bien. Ne ratez pas ce livre-là. Enfin, » Évidemment, on va voir. Parfois...
Il faut faire la part de l'intoxication.
Bien sûr.
Et alors, dans la critique littéraire, est-ce qu'il y a une concurrence entre la critique sur Internet et la critique dans les autres médias? Parce que, par exemple, j'ai des preuves, vos chroniqueurs, ils sont souvent critiques littéraires dans des organes de presse et ils sont à la fois à la radio, donc c'est aussi souvent les mêmes personnes. Donc, est-ce qu'il y a une concurrence ou est-ce que c'est complémentaire? Comment elle se porte en général, alors, la critique littéraire?
Moi, je ne crois pas qu'il y ait de concurrence, parce qu'il y a en effet il y a une approche qui est une approche différente. Évidemment, bien sûr, à la radio, on ne va pas présenter le livre de la même manière.
Alors, que permet la radio que ne permet pas la presse écrite?
Oh, alors là, ce serait...
C'est pas une méta-question, je ne suis pas en train de parler de notre émission, je parle de jeu d'épreuve.
Non, bien sûr, non, mais qu'est-ce que permet la radio? La radio donne de... Pour moi, donne de la chair, c'est-à-dire que déjà la texture de la voix permet de faire passer plus facilement, j'ai beaucoup employé ce terme, mais tant pis, plus facilement le projet littéraire d'un auteur, c'est beaucoup plus facile. Et puis on voit mieux, on ressent mieux les enthousiasmes, les hésitations qu'on peut avoir. Et donc il y a une prise beaucoup plus directe, c'est-à-dire on est... on est en compagnie du critique. C'est ça qui est. Alors qu'il n'y a pas de distance. Et en même temps, comme il n'y a pas de distance, l'auditeur est évidemment beaucoup plus alerté et laisse beaucoup moins passer un certain nombre de choses, c'est-à-dire des jugements qui peuvent apparaître à l'emporte-pièce. Alors que, évidemment, ces mêmes jugements à l'emporte-pièce, lorsqu'ils passent par l'imprimé, acquièrent tout de suite une légitimité. Mais vraiment, je dis franchement, ça peut être étonné, mais j'ai vu dans le magazine littéraire de mauvaises critiques du magazine littéraire qui en fait étaient arrivées à passer parce que du fait d'être dans le magazine littéraire, il y avait une sorte, là c'est une autocritique que je fais, il y a une sorte de légitimité, voilà. Parce que la légitimité de la chose imprimée, puis la légitimité aussi du magazine littéraire qui est un peu une institution, mais ça, ça ne passe pas à la radio. Vous ne pouvez pas tricher à la radio. Oui, ça, c'est-à-dire vous pouvez même par le langage parlé reprendre exactement l'article, la critique que vous avez faite, même si elle n'est pas bonne, vous pouvez même essayer d'y mettre le ton et tout, mais vous ne pouvez pas, parce que la voix ne ment pas.
En 1956, une enquête était publiée dans la revue Art et posait la question « Pourquoi les jeunes revues littéraires agonisent-elles ?»
Déjà.
Voilà, alors Pierre Assouline, est-ce qu'on peut appliquer ce constat aujourd'hui ?
Aux revues littéraires ?
Aux revues littéraires aujourd'hui.
Bah, si elles agonisaient en 56, aujourd'hui, elles sont supplétantes.
Dans quel état sont-elles ?
Elles sont supplétantes en principe, parce que sinon, on ne comprendrait pas. Mais,
Est-ce qu'on peut dire une chose de très polémique, pardon ?
Joseph Massescaron, oui, allez-y.
C'est que, très franchement, quand vous prenez le nom des personnes quand même qui s'occupaient avant la NRF, franchement, on était à un niveau d'excellence qu'on n'a pas aujourd'hui.
Vous parlez de Jean Paulhan, Marcel Arlan.
Franchement, est-ce que vous connaissez et que vous croyez que des personnes comme, je ne veux pas embarrasser Pierre Assouline, mais est-ce que vous pensez qu'une personne comme Jean Paulhan et tout aurait fait un petit livre sur les cafés de Bric et de Broc, fait en tenue d'Arlequin, comme l'a fait Michel Bordeaux, qui est le patron de la NRF ? Enfin non, quand même, soyons sérieux. Alors si vous me demandez pourquoi les revues, parce qu'avec ce que représente une revue, pourquoi les revues, évidemment, c'est très simplement parce que les auteurs qui sont les auteurs aujourd'hui préfèrent être le plus souvent être dans leur œuvre, voilà, et très 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 souvent et d'une manière d'ailleurs très égoïste, il faut le dire, voilà, parce que la condition aujourd'hui, alors là ça nous amènerait trop loin, mais la condition également de l'écrivain et de l'intellectuel est telle que malheureusement, très souvent, le passage par la revue est une perte de temps et donc une perte d'argent, voilà, et aussi une perte d'argent.
Oui, donc la fonction de direction de revue, on l'a vu dans les émissions précédentes, était souvent difficilement compatible avec l'écriture, puisque par exemple Jean Paulhan, au moment où il veut écrire son œuvre, se retire de la direction de la revue. On a vu également d'autres exemples.
Mais aujourd'hui, par exemple, avec toutes les revues qui sont fondées depuis 1956, je ne vois pas des exemples d'excellence. Voilà, je ne sais pas, quelles sont les revues, évidemment, je ne parle pas de celle de Léo Cher, mais la revue fracassante qui s'est faite il y a 10 ans, c'était Frédéric Becbédé. Donc très franchement, on n'est pas à un niveau d'excellence. Voilà.
Non, les revues aujourd'hui, elles sont des revues d'idées et de sciences humaines. Et ce ne sont pas des revues littéraires.
Absolument.
Donc la littérature, finalement, a un peu décliné.
Elle a perdu du terrain.
A perdu du terrain
par rapport au monde des idées, mais ça correspond aussi au retrait des écrivains. Je veux dire, les grands écrivains qu'on vient de citer, les Gides, les Camus, les Malraux, etc., eh bien, leur équivalent depuis 20 ou 30 ans, c'est plutôt Michel Foucault, Fernand Braudel, Claude Lévi-Strauss. Donc,
les sciences humaines,
voilà,
plutôt.
On a glissé, et le monde des idées, en général.
Alors c'était un reproche adressé aux revues littéraires dans les années 60-70, c'était de ne plus être littéraire et d'être plutôt des revues de sciences appliquées à la littérature.
Oui, aujourd'hui c'est plus ça, hein. C'est plus des sciences appliquées à la littérature, c'est sciences humaines, sciences sociales, enfin c'est plutôt la vie des idées au sens large du terme.
Mais la littérature n'est pas morte pour autant. On a vu avec Internet, avec les blogs, que de nouveaux médias permettaient des nouveaux supports pour la faire vivre. Et vous en êtes deux exemples vivants. C'est bientôt l'heure de se quitter. Pour finir, on peut peut-être citer Georges Lambrix dans un entretien paru dans la NRF de 1992. Il disait « La littérature, ce n'est pas une petite marmite rancie de chasseurs de virgules ou de rhéteurs précieux. » C'est un immense dialogue, des portes qui s'ouvrent sur d'autres pièces et d'autres gens, qui bientôt s'ouvrent eux-mêmes vers de nouveaux horizons. On s'enferme dans des idées, dans des concepts, on ne s'enferme pas dans la littérature. Merci Pierre Assouline d'avoir accepté de prendre part au dialogue de la littérature. Je rappelle que vous êtes l'auteur du blog La République des Livres, dont tous nos auditeurs pourront retrouver la référence sur le site internet. Merci à vous Joseph Massescaron, je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction du magazine littéraire, et que nous sommes impatients de vous retrouver dans Jeu des Preuves sur les ondes de France Culture. À partir de lundi, Pour la littérature continue avec une nouvelle série d'émissions consacrée à une autre marmite, pleine de potions magiques celle-là. On est tous tombés dedans quand on était petits. C'est Astérix, une bande dessinée dans tous ses états, qui vous sera présentée par Sophie Chassat. C'était la NRF 100 ans de littérature, une émission proposée par Fanny Jaffray. Équipe de réalisation Doria Zénine et Wu Min. Dans quelques instants, vous serez en compagnie de Camille de Toledo et Dominique Quesada pour Mythographie.